Les cours du Collège de France, Marc Hainaut, chaire chant, cordes et gravité.
Bonjour, on va commencer. Donc, bienvenue à toutes et à tous à cette première leçon de mon cours donc, de l'année 2024-2025 dans le cadre de la chaire chant, cordes et gravité qui sera consacrée à l'équation de Wheeler-DeWitt et la gravitation quantique. Donc l'équation de Wheeler-DeWitt, ce n'est pas une équation toute jeune. Elle a été écrite pour la première fois à la fin des années 60 du siècle précédent. Donc ça fait un petit temps qu'on la connaît. Donc elle apparaît lorsqu'on cherche à quantifier la gravitation par les méthodes hamiltoniennes, donc tout ce qu'on appelle l'approche canonique. Cette équation a été très populaire au moment où elle a été écrite pour la première fois et dans les années qui ont suivi, mais elle possède des limitations, comme je l'expliquerai, en ce qui concerne, c'est le fameux problème de la non-renormalisabilité du champ de gravitation, et donc on s'est rendu compte qu'il fallait dépasser la théorie d'Einstein, aller vers des choses comme la théorie des cordes, et le succès de la théorie des cordes a un peu éclipsé l'équation d'Euler-DeWitt. Mais cette équation, même si elle ne décrit pas la théorie complète, est intéressante parce qu'elle soulève des questions conceptuelles qui apparaissent dans toute approche à la quantification du champ de gravitation. Et cette équation a d'ailleurs connu un regain d'intérêt récemment pour mieux comprendre certains aspects conceptuels liés à l'holographie ou liés à l'information quantique, la cosmologie quantique aussi, mais enfin ça a toujours été populaire par les méthodes de Wheeler-DeWitt. Et donc ce que je voudrais faire dans ce cours ici, c'est vous expliquer comment on arrive à l'équation de Wheeler-DeWitt et vous donner les outils qui vous permettront de comprendre les articles les plus récents qui utilisent cette équation. Alors, concernant l'organisation du cours, chaque mercredi, excepté aujourd'hui, il y aura d'abord une leçon du cours et elle sera suivie d'un séminaire. Mais ce premier mercredi, il y aura deux leçons, l'idée étant d'avancer dans la matière pour permettre de mieux comprendre les séminaires qui vont suivre. Bon, ça c'est une première chose. Alors une autre chose aussi, c'est que j'essaierai à chaque cours de venir avec une liste de références. Je pense que j'en ai pas assez ici, vous êtes plus nombreux qu'attendus, tant mieux. Mais donc c'est les références qui ont... à la matière que je vais couvrir pendant le cours. Et ça, c'est un premier point. Un deuxième point, n'hésitez pas à poser des questions et à m'interrompre lorsque ces questions se présentent à vous. Le cours se fait au tableau, ce qui permet de m'interrompre facilement. Donc, comme je l'ai dit, l'équation de Wheeler-DeWitt apparaît lorsqu'on veut quantifier la gravitation par les méthodes hamiltoniennes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle les règles de correspondance de la mécanique, enfin, comment on passe de la mécanique classique à la mécanique quantique par les règles de correspondance hamiltonienne standard. D'abord, on reformule la théorie dans l'espace des phases, donc on a un certain nombre de P et de Q. Et je suppose que j'ai des variables de l'espace des phases qui sont canoniquement conjuguées, donc j'ai la forme canonique du crochet de Poisson, et en fait, ces variables... c'est un crochet de Poisson qui est donné, donc si je prie effectivement des variables canoniquement conjuguées par le crochet de Poisson suivant, delta IJ, donc les Q avec les Q c'est 0 et les P avec les P c'est 0. Et donc l'idée, et c'est très bien expliqué par exemple dans beaucoup de livres de mécanique quantique, mais par exemple dans celui de Dirac, l'idée pour passer à la mécanique quantique, c'est de remplacer les variables classiques que sont les Q et les P par des opérateurs. Donc, même si je ne vais pas le faire tout le temps, traditionnellement, on désigne les opérateurs correspondants par la même lettre, mais avec un chapeau. Et ce sont des opérateurs qui ne commutent pas. Et les règles de commutation sont en fait dictées par le crochet de Poisson. C'est-à-dire, on va imposer que les opérateurs quantiques QI et PJ ont un commutateur. Donc, ceci, c'est le commutateur maintenant. Ceci, c'était le crochet de Poisson. Ça, c'est le commutateur. On va demander qu'ils aient un commutateur qui est donné par I h bar fois le crochet de Poisson. Donc ici, I h bar delta IJ. Et donc, on remplace des variables classiques par des opérateurs. L'hamiltonien, qui est une fonction des Q et des P, devient aussi un opérateur. Et par exemple, on s'intéresse à calculer le spectre de l'hamiltonien. Alors, une représentation, une réalisation de ces relations de commutation particulièrement populaire, c'est la représentation dans les variables de configuration, donc dans l'espace des Q. Donc on réalise les états quantiques comme des fonctions des Q. Et l'opérateur Q est dans ce cas-là simplement la multiplication par Q. Et le moment conjugué, l'opérateur correspondant au moment conjugué, c'est h bar sur i des psi sur dqi. Et quand on utilise ces règles-là, l'hamiltonien devient un opérateur différentiel agissant sur psi. Donc ça, c'est les règles de commutation. Alors aussi, oui, pour pouvoir interpréter la mécanique quantique, il faut aussi des règles qui vous donnent comment calculer des amplitudes de probabilité. Donc il faut une manière de normaliser les fonctions d'onde et de calculer les produits scalaires. Donc elles vivent dans un espace de Hilbert et le produit scalaire est donné par l'intégrale sur les Q, sur tous les Q, donc je ne mets pas d'indice, de psi de Q au carré, donc on suppose fini. Alors ça, ce sont les règles de correspondance traditionnelles. Et donc l'idée qu'ont eu plusieurs personnes, Dirac, à commencer par Dirac, c'est de reformuler, d'appliquer les mêmes principes pour quantifier la gravitation. Donc reformuler la gravitation d'Einstein comme une théorie hamiltonienne, où il y aura des variables Q et des moments conjugués, et puis remplacer ces variables classiques par des opérateurs quantiques dont les relations de commutation sont dictées par les crochets de Poisson classiques. Et donc le premier but du cours, donc la première leçon, va être consacrée à dériver le formalisme hamiltonien de la relativité générale. La motivation étant qu'après, les variables hamiltoniennes vont être remplacées par des opérateurs et on obtiendra les équations quantiques qui contrôlent les équations qui contrôlent la gravitation quantique. Alors si on essaye de faire ça, on se heurte à des difficultés. Je vais d'abord décrire les difficultés. Donc, le premier cours, c'est formulation hamiltonienne. Oui, peut-être que je l'ai écrit ici au-dessus. Donc formulation hamiltonienne de la relativité générale. Donc ce sera entièrement classique. Alors on se heurte à des difficultés. Alors il y a deux difficultés au moins. Alors il y en a une qui est simple, il y en a une qui est plus compliquée. Bon, la première difficulté, c'est qu'on a affaire à une théorie des champs. Bon, mais ça c'est... Donc conceptuellement, en tout cas, c'est pas compliqué. La deuxième difficulté, elle est plus sérieuse, c'est que l'invariance de jauge complique les choses comme on va le voir. Et donc c'est une difficulté. Le fait que la théorie est invariante, vous savez que la théorie d'Einstein est invariante par changement de coordonnées, qui peuvent être quelconques, c'est typiquement ce qu'on appelle une invariance de jauge. Donc on dit qu'une théorie est invariante de jauge si elle est invariante pour des transformations qui dépendent de fonctions arbitraires de l'espace-temps ici, de l'espace et du temps. Enfin, c'est surtout le temps qui est un problème, enfin du temps et de l'espace, puisque après tout, ces covariants, les deux apparaissent. Donc quand on a une théorie qui possède une telle invariance, comme je vais l'expliquer, immédiatement il y a une difficulté lorsqu'on veut passer au formalisme canonique. Donc je vais maintenant expliquer ces deux difficultés en commençant par la plus simple, le fait qu'on a une théorie des champs. Et prenons par exemple un champ scalaire pour illustrer. Bon, c'est pas très compliqué une fois qu'on a compris ce qui se passe. Donc les variables canoniques, ici, elles dépendent bien sûr du temps. Donc si j'ai une théorie des champs avec un champ scalaire que j'appelle phi, il va dépendre du temps, mais il va aussi dépendre des coordonnées d'espace. Donc je vais utiliser x, c'est les coordonnées d'espace, et je vais travailler à trois dimensions, donc il y a trois coordonnées d'espace, x1, x2, x3. Donc les champs vont... Donc on voit que ce qui remplace... La manière dont on va traiter les théories de champ, c'est de dire, conceptuellement c'est la même chose, mais au lieu d'avoir un indice discret i, on a un indice continu x. Donc x va correspondre à i, et t bien sûr est t. Et donc en fait là on a juste simplement i est remplacé par x, et bien sûr les sommes sur i vont être remplacées par des intégrales sur dx, puisque je suis à trois dimensions, je l'écris. Et les dérivées par rapport à QI vont être remplacées par des dérivées fonctionnelles par rapport à phi de x. Donc, comment on définit la dérivée fonctionnelle? Donc, si f est une fonctionnelle de phi, bon, je n'écris pas toujours, comme on ne le fait pas toujours, écrire explicitement la dépendance en le temps. Hein. Mais évidemment, tout dépend du temps aussi, mais je ne vais pas l'écrire. On regarde l'espace des phases ou l'espace de configuration à un moment donné. Donc, comment on définit la dérivée fonctionnelle? Ben, par l'intégrale delta f sur delta phi de x, delta phi de x. Donc, on écrit la variation de f sous cette forme-là, et le coefficient dans l'intégrale, c'est ce qu'on appelle la dérivée fonctionnelle. Donc, on va remplacer les dérivées ordinaires par des dérivées fonctionnelles. Vous voyez, la somme est remplacée par une intégrale. Et donc, moyennant ça, le formalisme est exactement comme en mécanique classique. Donc, pour juste traiter l'exemple au complet, supposons que je regarde le champ scalaire libre. Donc, l'action, c'est 1 demi dt d3x phi point carré. Donc, j'isole la dérivée temporelle moins dk phi dk phi dk phi. Et bien ce qu'on va faire, donc je peux écrire ça si vous voulez comme 1 demi fois l'intégrale sur dt du Lagrangien, et le Lagrangien est donc donné par l'intégrale sur d3x de ce qu'on appelle la densité lagrangienne L, qui est donc donnée par 1 demi phi point carré moins dk phi dk phi. Donc il y a une sommation sur k. Alors, ben, appliquons les règles standards. On va définir le moment conjugué à phi en disant ben, c'est la dérivée fonctionnelle du Lagrangien par rapport à phi point de x. Lagrangien L est donné par une intégrale. Donc on va écrire la dérivée fonctionnelle. Mais vous voyez que ça va être juste la dérivée ordinaire de L de la densité lagrangienne par rapport à phi point, calculée au point x. Alors, c'est donc phi point de x. Hein. Ça, c'est facile à calculer. Et puis, on va définir le Hamiltonien comme d'habitude. C'est, on somme, donc d'habitude, c'est pi q point i, mais la somme sur i est remplacée par une intégrale sur x. Pi phi point moins l. Ça, c'est la définition de l'Hamiltonien. Et donc, si vous substituez, vous avez pi carré ici, moins 1 demi pi carré, donc c'est 1 demi. Enfin, vous reconnaissez la densité d'énergie du champ scalaire, donc l'énergie cinétique plus dk phi, dk phi. Et vous pouvez vérifier que les équations hamiltoniennes s'obtiennent à partir de cet hamiltonien. Donc pi et phi sont canoniquement conjugués. Donc ceci s'appelle la transformation de Legendre. Hein. Donc pi et phi sont canoniquement conjugués. Donc on va avoir des relations de commutation qui sont les suivantes. Enfin donc, la crochet de Poisson, on est toujours classique, qui sont delta de x moins y. Donc ça remplace le delta ij, hein, puisque c'est ce qui apparaît dans l'intégrale. C'est ce approprié à l'intégrale. Les autres crochets de Poisson seront nuls. Et vous pouvez vérifier très facilement que phi point est bien donné par le crochet de Poisson de. Donc on va spécifier l'indice. En x est égal au crochet de Poisson de phi de x avec h. Crochet de Poisson. Et que phi point est donné par le crochet de Poisson de pi avec h. Donc, une fois qu'on a compris que c'était ça qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il faut réellement voir x comme un indice, mais c'est un indice continu au lieu d'être un indice discret, il n'y a vraiment aucune difficulté. Donc là, cette difficulté n'en est finalement pas vraiment une, le fait qu'on soit en théorie des champs. Par contre, l'autre est beaucoup plus sérieuse. Alors avant de voir si ce que tout le monde me suit, ça a l'air. L'autre est beaucoup plus sérieuse. Alors l'autre, elle, en fait, l'invariance de jauge implique que ce que j'ai fait ici, donc en fait, ce que je vous ai dit ici, c'est la transformée de Legendre, ou la transformation de Legendre, où on passe des vitesses au moment conjugué. Et une propriété très importante que j'ai utilisée, c'est qu'ici, elle était inversible. C'est-à-dire, ceci me définit les pi en fonction des phi points, mais inversement, bon, particulièrement clair ici, ça me permet d'exprimer les phi points en fonction des pi, ce qui est particulièrement important quand je veux réécrire l'hamiltonien uniquement en termes des variables de l'espace des phases sans vitesse. Donc je peux me débarrasser des vitesses précisément parce que je peux inverser cette transformation. L'inverse étant particulièrement trivial, hein, si A égale à B, B est égal à A. Bon. Mais c'est plus compliqué en général. Alors, ce que je prétends, c'est que dans le cas de la gravitation, et en fait dans le cas de toute théorie de jauge, la transformation de Legendre ne peut pas être inversible. Donc, cette propriété qu'on suppose dans tous les cours de mécanique classique habituelle, que la transformation de Legendre peut être inversée, en fait, dès qu'on a une théorie de jauge, et les théories des champs les plus intéressantes sont en général des théories de jauge, dès qu'on a une théorie de jauge, on ne peut pas inverser la transformation de Legendre, et donc ça coince. Alors, comment voir qu'on ne peut pas inverser la transformation de Legendre? L'argument, il est très simple. Supposons qu'on puisse inverser la transformation de Legendre. Je pourrais alors développer le formalisme canonique comme je l'ai fait ici. Et je pourrais donc réécrire les équations lagrangiennes sous une forme hamiltonienne équivalente, comme ici. Ça, c'est ce que nous garantit le formalisme hamiltonien. Si la transformation de Legendre est inversible, on peut construire H, on peut construire... Et on a donc des équations hamiltoniennes qui ont cette forme-ci. Ces équations hamiltoniennes, elles sont intéressantes parce qu'elles mettent les dérivées d'un côté, phi point, pi point, égale à quelque chose qui ne contient pas les dérivées. Et donc ces équations, elles sont sous ce qu'on appelle sous forme normale. Et donc, il y a des théorèmes généraux qui nous disent ces équations sous forme normale, pour des conditions initiales données, donc si je vous donne phi en t égale à 0 et pi en t égale à 0, vous pouvez construire phi et pi à tout moment, parce que les équations sont sous forme normale. Or, s'il y a une invariance de jauge, on ne peut pas construire à partir des données initiales les champs à tout moment. Pourquoi? Parce que les champs sont... s'il y a une invariance de jauge, ça veut dire qu'il y a des champs qui se transforment de manière non triviale sous l'invariance de jauge. Or, ça veut donc dire la chose suivante. Imaginez que je vous donne des conditions initiales et que je cherche à déterminer les champs ici. C'est clair que je ne peux pas avoir une valeur unique des champs ici parce que je peux toujours faire une transformation de jauge entre l'instant initial, où elle se réduira à l'identité pour ne pas toucher aux conditions initiales, et l'instant final, puisque cette transformation de jauge dépend de fonctions arbitraires du temps, et donc j'ai toujours la possibilité de faire une transformation de jauge. Et donc, je ne peux pas obtenir en t égale, disons, 5, la valeur des champs si je la connais en t égale à 0, puisque je peux toujours faire une transformation de jauge entre t égale à 0 et t égale à 5. Donc, ça veut dire que quelque part dans le formalisme hamiltonien, quelque chose ne doit pas fonctionner. Parce que si tout ça pouvait être, si ça est vrai, ben alors j'arrive à des équations qui ont cette forme-là et qui prédisent pour toutes les variables une évolution unique. Évidemment, l'évolution est unique à une transformation de jauge près, mais les variables se transformant par les transformations de jauge, ça veut dire que leur évolution n'est pas unique. Donc ça, c'est une idée très générale. Alors, la gravitation, c'est une théorie qui, comme je vous l'ai dit, possède une invariance de jauge. On peut toujours effectuer des difféomorphismes qui dépendent arbitrairement du temps. Et donc, la gravitation rentre dans ce cadre où la transformation de Legendre n'est pas inversible. Et effectivement, les gens s'en sont rendus compte, ils ont calculé les moments conjugués et ils se sont rendus compte, oh, pas de chance, on ne peut pas écrire les vitesses en fonction des moments conjugués. On ne peut pas aller dans l'autre sens. Alors, la théorie générale qui s'applique à toute théorie de jauge, même à tout lagrangien, la théorie générale hamiltonienne, a été développée par Dirac. Donc Dirac a conçu le formalisme général qui s'applique à tout lagrangien, même lorsque la transformation de Legendre n'est pas inversible, et qui se réduit bien entendu à ce qu'on connaît lorsqu'elle est inversible. Mais je ne vais pas développer le formalisme de Dirac en général ici, parce que la théorie qui m'intéresse, c'est la gravitation. Donc je vais développer le formalisme hamiltonien dans le cadre précis de la gravitation. Je vous dirai quelles propriétés en cours de route sont réellement des propriétés générales et valables pour toute théorie de jauge, mais ce qui nous intéresse, c'est la gravitation, et donc je vais faire la gravitation. Je vais traiter la gravitation. D'accord ? Donc ce que je vais vous montrer, ce que je vais faire maintenant, c'est d'abord vous montrer qu'effectivement, Lagrangien d'Einstein ne permet pas d'inverser la transformation de Legendre, mais néanmoins, je vais vous montrer comment on développe le formalisme canonique, formalisme hamiltonien. Donc j'utiliserai termes canonique et hamiltonien comme synonyme. Quand je parle de formalisme canonique, c'est aussi la même chose que le formalisme hamiltonien. Bien. Alors, pour développer le formalisme hamiltonien de la relativité générale, je dois d'abord définir un certain nombre de concepts géométriques. Donc, je vais d'abord faire un peu de géométrie relativement élémentaire, mais adaptée au formalisme hamiltonien pour les espaces pseudo-riemanniens, comme les espaces de la relativité générale. Donc, il va y avoir des préliminaires géométriques, indépendamment de la dynamique, donc c'est de la géométrie. Et puis, je vais revenir au Lagrangien d'Einstein, où je vais considérer le Lagrangien d'Einstein. Donc je vais avoir des préliminaires géométriques. Donc ce qui nous intéresse, c'est la question suivante. On se donne les variables décrivant le champ de gravitation à un instant initial, c'est-à-dire en termes géométriques, sur une hypersurface de genre espace initial, et on cherche l'évolution à déterminer le champ de gravitation sur des hypersurfaces ultérieures. Bon, on peut aussi remonter le temps et aller dans l'autre sens. Donc, géométriquement, je vais supposer que ma variété d'espace-temps M4, c'est le produit d'une variable qu'on peut voir comme le temps fois une variété à trois dimensions. Et donc je vais supposer qu'il y a un feuilletage, disons, de ma variété d'espace-temps par ces hypersurfaces à trois dimensions, donc définies par M3. Et je vais adapter le système de coordonnées de telle sorte que ces hypersurfaces aient pour équation x0 égale à constante. Donc x0 égale à une constante t, x0 est égal à t plus dt ici. Donc ça c'est le temps, disons, me décrit les différentes hypersurfaces de genre espace. Et pour une valeur fixée de t, j'ai une hypersurface à trois dimensions, et je vais introduire des coordonnées que j'appelle xi sur ces hypersurfaces à trois dimensions. Donc xi où i prend les valeurs, comme je l'ai dit, 1, 2, 3. Alors, ça c'est un point de coordonnées spatiales fixes. Je vais regarder les points qui ont même coordonnées spatiales sur les hypersurfaces suivantes. Donc je vais avoir les lignes tangentes au vecteur d sur dt. Qui me disent quand je change t, comment on passe d'un point ici à un point là. Alors, avant même de développer ça, je vais observer que la métrique d'espace-temps induit sur les hypersurfaces une métrique d'espace. Et je suppose que mes hypersurfaces sont de genre espace, c'est-à-dire que la métrique d'espace que je vais dénoter GIJ, où I prend les valeurs 1, 2, 3, donc c'est la métrique qui me donne les longueurs, les éléments de longueur à t égale à constante, donc elle va en général dépendre de t, mais pour une valeur de t fixe, elle ne dépend que des x. Chaque hypersurface a sa géométrie. Donc cette métrique est de signature euclidienne, puisque j'ai des hypersurfaces de genre espace. Et je vais noter la métrique inverse, GIJ. Donc quand je ne dis pas spécifiquement que c'est à trois dimensions que je travaille à trois dimensions. Par défaut, on est à trois dimensions. Si je suis à quatre dimensions et que je regarde des objets à quatre dimensions, on verra qu'il faut être effectivement parfois prudent, je mettrai explicitement le symbole 4. Mais puisque après tout on veut développer l'hamiltonien, autant d'emblée se mettre comme ça. Bon. Alors, je veux aussi avoir comme notation, je vais utiliser des flèches pour les vecteurs d'espace-temps. Donc A, B avec une flèche, c'est des vecteurs d'espace-temps. Mais normalement, je devrais utiliser un caractère gras mais, et réserver peut-être la flèche pour les objets d'espace. Mais comme je ne peux pas dessiner les caractères gras, je prends les flèches pour les vecteurs d'espace-temps. Et les A formes d'espace-temps, je vais les désigner. À nouveau, je ne peux pas utiliser les choses en gras avec une flèche en dessous. Donc, voilà, informe d'espace-temps ou covecteur d'espace-temps. Alors, si je change mes coordonnées t, donc si je change t d'une hypersurface à l'autre, si je change x, pardon, si je fais des transformations où x va dépendre du temps, le point où cette ligne perse va changer. Donc le repère dans lequel on travaille habituellement, qui est d sur dt, d sur dxi, alors d sur dxi c'est bien attaché à l'hypersurface, mais d sur dt peut changer. Donc ça n'a pas une signification invariante, très claire, d sur dt, puisque ça va dépendre du choix des coordonnées. Et rappelez-vous, les coordonnées, on peut les changer. Donc je peux effectivement, je peux aussi changer le feuilletage. Mais même à feuilletage donné, je peux, en changeant la coordonnée x de manière qui dépend du temps, je peux changer les lignes xi égale à constante. Et donc clairement, je peux changer ce vecteur d sur dt. Il est plus intéressant de travailler dans une base qui ne dépend pas de ce choix. Et pour cela, on va introduire la normale normée aux hypersurfaces xi égale à constante. Et plutôt que de travailler dans la base d sur dt, d sur dxi, on va travailler dans la base, clairement c'est une inversible, n d sur dxi. Donc n, c'est la normale normée, donc c'est défini par deux conditions. D'abord, c'est n est orthogonal à l'hypersurface, ça veut dire que c'est orthogonal aux trois vecteurs d sur dxi. Donc, je vais utiliser plusieurs notations. Donc, une notation intrinsèque, c'est de dire que le produit scalaire de g avec les d sur dxi, c'est égal à 0. Parfois, je vais utiliser les choses en composantes. Donc, j'écrirai n lambda d sur... Donc, et ici, je vais mettre e i mu. Donc, e I mu, c'est la composante mu du vecteur d sur dxi. Et c'est bien entendu delta mu i. Donc c'est deux fois, c'est égal à 0. C'est la même équation. Là, c'est écrit de manière un peu plus intrinsèque. Là, c'est écrit en composante. C'est le produit scalaire de n avec e, avec les ei qui est égal à 0. Et donc, il y a une somme, donc les indices grecs prennent les valeurs 0, 1, 2, 3. Donc toutes les valeurs d'espace-temps, et les indices, ils sont sommés, bien entendu. Donc on a première condition, ça vous donne la direction, et puis on va normer, on impose g de nn est égal à moins 1. Pourquoi moins? Mais parce qu'on est on a une variété pseudo-riemannienne, et donc de signature minkowskienne, et... évidemment, ça laisse une ambiguïté de choix. Je vais supposer qu'il y a une orientation du temps qui a été donnée. Je vais prendre n pointant vers le futur. Bien. Donc ceci, parfois, on peut l'écrire aussi en composante. Ce sera g lambda mu, n lambda n mu, égal à moins 1, donc dans la base ici. Il est utile d'avoir les formules de changement de base complètes. Mais pour cela, donc, je vais introduire ce qu'on appelle le laps, la fonction de laps et le vecteur de shift. Donc, fonction de laps et vecteur de déplacement. Mais donc, j'utiliserai souvent la terminologie anglaise, laps et shift. Et ça s'obtient en décomposant d sur dt dans la base des n et d sur dxi. Donc, on écrit que d sur dt, c'est égal à n fois la normale plus Ni fois les vecteurs D sur DXI. Donc ceci s'appelle la fonction de Laps ou le Laps, et ceci s'appelle le vecteur de déplacement ou le déplacement. J'utiliserai parfois la terminologie anglaise, Laps et Shift. Donc, qu'est-ce que le Laps, j'utiliserai parfois pour rappeler que c'est la composante le long de la normale. J'utiliserai parfois le symbole perpendiculaire. Mais ça, c'est la même chose. Donc, parfois, je voudrais insister là-dessus, je mettrai perpendiculaire, mais si c'est évident, je ne l'écrirai pas. Alors, qu'est-ce que me dit cette décomposition? Mais quand je passe de l'hypersurface T à l'hypersurface T plus DT, ben, je me déplace d'une certaine quantité le long de la normale, qui est donnée par N, et puis je me déplace aussi de manière tangente par un vecteur qui est donné par Ni. D'accord? Donc ça, c'est la signification géométrique de N et Ni. Alors, comme je l'ai dit, c'est utile alors de décrire complètement le changement de base. Hein. Donc, on a d sur dt en fonction de ça et d sur dxi, mais c'est bien entendu d sur dxi. Donc, on a ces éléments, ces vecteurs de base en termes de ceci, ben, c'est la définition du Laps et du shift. Donc, je le réécris ici, d sur dt, c'est n fois la normale plus ni d sur dxi et ben, D sur DXI ici, ben, c'est bien sûr D sur DXI là, c'est les mêmes vecteurs tangents aux lignes de coordonnées XI. Alors ça c'est facile à inverser. Il suffit juste d'écrire la normale en fonction de des autres vecteurs. Et bien entendu, toujours D sur DXI égale D sur DXI. Alors, c'est utile aussi d'avoir le changement de base inverse, disons, pour la base duale. Donc, vous savez qu'à toute base, dans un espace vectoriel, on peut associer une base duale. Donc, la base duale dans l'espace des informes, des covecteurs, donc c'est DT, D sur DXI. Et la base duale ici, je vais l'appeler psi theta i. Donc la définition de la base duale, je vais peut-être l'écrire là, c'est que ce qu'on appelle parfois le produit intérieur de psi avec n, c'est 1. Psi avec d sur dxi, puisque c'est la base duale de ceci, c'est 0. Theta i avec n, c'est 0. Hein, et theta i avec d sur dxj, c'est delta ij. Alors, exercice, c'est juste inverser les choses. Dt, c'est 1 sur n fois psi. Et dxi, c'est moins ni sur n fois psi plus theta i. Donc dt et dxi satisfait par rapport à la... C'est un fond, pardon, satisfont par rapport à la base dt sur dxi aux mêmes relations que psi et theta par rapport à n et d sur dxi. Donc sachant cela, c'est un problème d'algèbre assez direct de déterminer cela. Je ne vais pas le faire en détail ici, mais on va en avoir besoin parce que ça va nous permettre, en fait, de réécrire les composantes temporelles de la métrique. Donc à côté de gij, qui est la métrique induite, vous avez aussi les g0 mu, les autres composantes, qui ont au moins un indice 0 de la métrique, et on va les exprimer en termes du Laps et du shift. En termes de... Et pour faire cela, c'est utile d'avoir ces... Parce que c'est un changement de base. Donc si on a les changements de base et des bases duales dans les deux sens, en fait, on peut tout calculer. Donc là, en fait, la métrique dans la base... peut-être j'utilise lambda mu, je ne sais pas. Enfin, c'est d'indice grec. dans la base d sur dt, d sur dx, si je l'appelle g lambda mu, donc c'est une certaine matrice. Et je peux réécrire cette même métrique dans la base n d sur dxi, où elle a une structure plus simple, parce que n étant orthogonal à d sur dxi, et donnant moins 1, on sait qu'on a ici cela, et puis là j'ai les gij. Et donc on peut écrire les g lambda mu en termes de la métrique ici et des coefficients du changement de base qui contiennent n et ni, de manière en utilisant les formules de changement de base d'une base à l'autre. Et si on fait ça, ou une autre manière de dire, c'est qu'on calcule les produits scalaires des éléments de cette base-ci en termes des composantes dans cette base-là. Ça revient à la même chose. Mais quelle que soit la manière dont on procède, et je vous laisse à nouveau faire ça comme exercice, on obtient que G00 est donné par moins n carré plus Gij Ni Nj, et que G0i est donné par Gij Nj. Donc en d'autres termes, les composantes G0 mu peuvent s'exprimer en termes de la fonction de Laplace et du vecteur de déplacement, en utilisant aussi la métrique sur la surface. Et on peut aller dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut écrire clairement Ni en fonction de G0i, puisque cette métrique-ci est inversible. Et puis, donc on aura que Ni, c'est Gij G0j. Et après, je peux, ayant connaissant n en fonction de G0i, je peux exprimer n carré en fonction de G00 et G0i. Et donc, on obtient. Soit j'inverse ceci directement, mais en fait, on peut montrer, et je vais le démontrer, on peut le montrer, et que en fait, n carré, c'est égal à moins G00. C'est-à-dire que cette expression-ci, où je mets ceci dans l'autre sens et que je résous, en fait, ça me donne juste l'inverse de G00. À nouveau, ces formules-là ne sont pas très compliquées à obtenir. Donc ceci me montre que je peux exprimer les G0 mu en fonction de n et de ni, et ceci me montre que je peux exprimer les ni et n en fonction des G0 mu. D'accord ? Ça va dans les deux sens. Donc à nouveau, si ceci n'est pas clair pour vous, faites le changement de base. C'est vraiment des formules d'algèbre linéaire. Je connais un tenseur dans une base, je veux connaître les composantes de ce tenseur dans une autre base, ça fait intervenir les composantes dans l'ancienne base et les éléments de la matrice de transformation qui relie les deux bases, qu'on a calculées. Donc puisqu'on a ça et qu'on connaît la métrique dans une base, c'est facile de calculer dans une base. Donc ça, je vous laisse faire. Autres expressions utiles, quand on veut développer le hamiltonien, même si je ne vais pas tout faire en détail, mais je vous les écris comme ça, vous les avez toutes. À nouveau, je vous laisse faire comme exercice que les composantes avec les indices au-dessus, G0i, c'est ni sur n carré, et que, alors c'est là justement qu'il faut faire attention, les composantes ij de l'inverse de la métrique inverse d'espace-temps, c'est pas égal à gij, c'est gij moins ni nj sur n carré. Donc, ici, vous avez une matrice 4 par 4, vous l'inversez, et je regarde les composantes ij de cette matrice inverse. Et je prétends que ce n'est pas l'inverse, les composantes ij de cette matrice inverse ici. Ça, c'est assez clair, finalement. S'il y a des G0 mu différents de 0, on ne va pas avoir les mêmes formules. Et en fait, les deux sont reliés par cette relation-ci. Donc ça, c'est l'inverse de la métrique d'espace. Ça, c'est les composantes IJ de la métrique d'espace-temps. Et les deux sont reliés comme cela. Ça fait intervenir le Laplace et le Shift. Si, évidemment, Ni est égal à 0, ça veut dire que cette métrique est aussi diagonale par bloc, un peu la même structure, et alors on a égalité. Mais si Ni est différent de 0, c'est un peu plus compliqué. Donc à nouveau, je ne passe pas de temps à dériver ces formules parce que c'est juste de l'algèbre linéaire. Si cependant il y a un problème conceptuel à les dériver, n'hésitez pas à m'en parler après le cours ou à vous manifester d'une manière ou d'une autre. Alors, autre formule importante, et là je vais l'utiliser, c'est si je calcule le déterminant de la métrique à 4 dimensions. Donc le déterminant de cette métrique-ci. Ben, il est clair que si je peux écrire cette métrique en fonction du laps du shift et de ce qui est là, ben, je peux aussi calculer le déterminant. Alors si on fait le calcul, qu'est-ce qu'on obtient ? Alors je vais l'écrire tout de suite, moins le déterminant à la puissance 1/2, parce que c'est ce qui apparaît dans le Lagrangien d'Einstein, eh bien ça va être le laps, la fonction de laps, fois le déterminant de la métrique d'espace-temps. Alors ça, c'est une formule qu'on va utiliser. Donc à nouveau, c'est un exercice que je vous laisse faire, qui consiste simplement, une fois qu'on a calculé le déterminant ici, et à le relier au déterminant de cette matrice-ci, qui fait apparaître le déterminant de GIJ, clairement, et les formules, le déterminant de la matrice de changement de base. Qu'on peut d'ailleurs calculer facilement, on le voit ici, hein, c'est pas très surprenant. Vous voyez que cette matrice la matrice de changement de base, elle est triangulaire, hein, et donc ceci ne va pas jouer dans le déterminant. Alors une autre relation qui va être importante, c'est si vous calculez les composantes de la normale dans la base d sur dt, d sur dxi, eh bien, vous allez obtenir 1 sur n moins ni sur n, et en fait c'est juste la relation que j'ai écrite ici. Donc une autre manière, si je prends les composantes mu de ça, ben la composante temporelle c'est 1 sur n, et les composantes spatiales c'est moins i sur n. Donc cette relation là je l'écris parfois comme ça parce que c'est comme ça qu'elle va apparaître dans les calculs, et n mu indice en bas. Alors là, j'ai clairement un 0 ici, puisque ça doit être orthogonal à d sur dxi. Et ici, la condition de normalisation me le donne. Et si ça doit pointer vers le futur, c'est moins n. Ah, le produit scalaire fait moins 1. Et comme l'indice est en bas, avec mes conventions de signature, donc c'est, comme vous l'avez déjà vu, je dois pas le. C'est, la signature est minkowskienne, mais avec 3 plus et 1 moins. Donc il y a un moins ici à cause de ça pour avoir l'orientation vers le futur, avec l'indice en bas. Bien. Alors, donc ça c'est juste un changement de base où on joue beaucoup avec la fonction de laps et le vecteur de déplacement. Il n'y a rien de bien profond, mais c'est des formules qui sont utiles quand on veut décomposer le Lagrangien d'Einstein, qui est écrit dans le formalisme de manière covariante d'espace-temps, quand on veut le décomposer dans l'espace et le temps. C'est-à-dire, puisqu'on veut formuler les choses de manière hamiltonienne. Alors, j'ai presque terminé mes préliminaires géométriques. Il y a encore un concept important que je dois introduire, qui est celui de courbure extrinsèque. Donc j'ai parlé ici d'abord de géométrie intrinsèque, qui est définie par GIJ, donc qui vous donne la manière de calculer des distances dans les hypersurfaces t égale à constante. Et bien entendu, ces hypersurfaces peuvent être courbées, et donc on pourra définir un tenseur de courbure, un tenseur de Riemann associé à GIJ. C'est ce qu'on appelle la courbure intrinsèque. Mais à côté de cela, il y a une courbure qu'on appelle la courbure extrinsèque, que je vais définir maintenant. Et pourquoi on l'appelle extrinsèque ? C'est parce qu'elle donne des informations sur la manière dont les hypersurfaces sont plongées dans l'espace ambiant. Donc c'est extrinsèque, ça contient de l'information en plus. Donc pour prendre un exemple, si je prends cette feuille, il n'y a pas de courbure intrinsèque, c'est plan, la métrique est euclidienne, mais je peux cette feuille l'a plongée de plusieurs manières différentes dans l'espace euclidien. Je peux soit faire comme ça, un hyperplan, soit je peux courber comme ça. Et donc, il y a différentes manières de plonger la même géométrie intrinsèque dans l'espace-temps. Et la courbure extrinsèque va caractériser ce plongement. C'est-à-dire que la courbure intrinsèque sera la même dans tous les cas, mais elle ne sera pas la même dans ce cas-ci, que dans ce cas-ci ou que dans ce cas-ci. Et donc, on va introduire ce tenseur, maintenant. Alors oui, encore une notation qu'on utilise souvent, même c'est je vais être amené à distinguer des dérivées covariantes d'espace-temps. J'utilise la métrique d'espace-temps et de la courbure de Lévi-Civitas associée à cette métrique d'espace-temps pour prendre mes dérivées covariantes, des dérivées covariantes d'espace. Donc il faut distinguer les deux. Et la manière traditionnelle de distinguer les deux, ou une manière souvent utilisée de distinguer les deux, c'est que point virgule, c'est la dérivée covariante d'espace-temps, et qu'une barre verticale, c'est la dérivée covariante d'espace. Bon. Alors, je vais être très explicite pour commencer. Comment on définit la courbure extrinsèque ? Eh bien, on considère la normale, et on regarde la manière dont la normale varie quand on se déplace le long de l'hypersurface. Vous voyez que c'est quelque chose d'intéressant à considérer, parce que dans ce cas-ci, si je prends la normale et que je déplace les choses parallèlement, le long de l'hypersurface parallèlement à elle-même, la normale reste normale. Si je fais la même chose pour une courbure, je prends la normale et je la dépasse parallèlement à elle-même dans l'espace-temps, ben elle ne reste pas normale. Si mon hypersurface est courbée. Donc, considérer les dérivées covariantes de la normale le long de l'hypersurface en utilisant la dérivée covariante d'espace-temps, c'est un objet intéressant qui va me donner des informations sur la manière dont l'hypersurface est plongée. Et donc, c'est ça qui va nous amener à définir la courbure extrinsèque. Alors, ça, je vais l'écrire en composante tout de suite. Donc, c'est la même chose que n alpha, vu mes conventions, point virgule k. Donc, je prends la dérivée covariante d'espace-temps dans la direction k de la normale. Alors, la normale a une propriété importante, c'est qu'elle est normée. C'est-à-dire le produit scalaire de la normale avec la normale, c'est moins 1. Et donc, si je dérive moins 1 le long de l'hypersurface, c'est 0. Donc ce que je sais, c'est que n alpha point virgule k, donc c'est un scalaire, donc c'est la même chose que la dérivée ordinaire, c'est égal à 0. Et donc, puisque la métrique est à dérivée covariante nulle, je vois que la dérivée covariante du vecteur k est orthogonale à n alpha. En développant ça, j'obtiens deux fois n alpha point virgule k n alpha. La métrique est à dérivée covariante nulle, donc elle passe à travers la dérivée covariante. Donc je sais que ceci, étant orthogonal à la normale, va pouvoir se développer en termes des vecteurs tangents. Et donc, ce qu'on peut écrire, c'est ceci doit être une combinaison linéaire des vecteurs tangents. Donc je pense que j'avais introduit déjà cette notation que j'appelle, oui, ici. Et les coefficients, je vais les appeler k, et c'est ce qu'on appelle la courbure extrinsèque. Alors la convention, c'est réellement de mettre un signe moins ici, et donc j'ai un m là et un k ici. Donc puisque c'est orthogonal à n, je peux le déballer en termes des vecteurs tangents, et les coefficients, ça s'appelle la courbure extrinsèque. Et donc dans le cas où je plonge comme ça, comme la dérivée covariante de la normale est nulle, ben, k est égal à 0, mais dans le cas où c'est courbé, la dérivée covariante n'est plus égale à 0, et donc on obtiendra un coefficient non nul ici. Alors, ce k est un tenseur d'espace, en ce sens que si je fais une transformation de coordonnées d'espace, donc mes vecteurs d sur dxi vont se transformer entre eux, donc ça va se transformer, k va se transformer tensoriellement. C'est-à-dire qu'on va avoir la matrice de changement de base associée au fait qu'on change k, mais aussi on change les EAM, donc ça va se transformer comme un tenseur d'espace. Donc la courbure extrinsèque est un tenseur d'espace. Bien. Alors je voudrais relier maintenant la courbure extrinsèque à la métrique, et aux dérivés de la métrique. Hein, parce qu'après tout, la métrique détermine tout. Une fois que j'ai la métrique d'espace-temps, puis je me donne les hypersurfaces, mais cette métrique d'espace-temps me définit tous les objets géométriques qui sont donc des objets dérivés. Alors comment on va calculer donc je voudrais relier K à la métrique. Et pour faire ça, ben, je vais déballer la dérivée covariante de la normale. C'est plus commode de le faire en abaissant l'indice. Donc je vais considérer l'équation correspondante où l'indice a été abaissé. Donc je multiplie ceci par g bêta alpha. Alors probablement, je vais mettre un bêta ici pour avoir le même alpha là et là. Alors ça c'est, comme on l'a vu, hein, c'est delta bêta m. Et donc bêta doit être égal à m. Donc j'obtiens l'équation, ceci est égal à moins kmk gm alpha. Donc ce que je vais faire, c'est à partir de cette équation, je vais déballer la dérivée covariante et je vais obtenir une expression pour la courbure extrinsèque. Et on va voir que la courbure extrinsèque, et c'est pour ça qu'elle joue un rôle important dans le formalisme hamiltonien, est en fait directement reliée aux dérivées par rapport à x0 de la métrique. Et donc ça va en fait jouer essentiellement le rôle de moment conjugué à la métrique. Donc puisque je veux développer le formalisme hamiltonien, c'est pour ça que la courbure extrinsèque, j'en parle. Alors, déballons cette équation-là. Bon, il y a redondance, hein, puisqu'on sait que ceci est orthogonal à n alpha. Donc l'équation intéressante, en fait, c'est quand je prends pour alpha un indice spatial que j'appelle A. Donc je vais considérer n A point virgule K. Il y a aussi une équation où alpha est égal à 0, mais comme on sait, ces équations sont un peu redondantes, puisqu'on a ça. Donc l'équation pour 0 n'est pas très intéressante, enfin, est conséquence de ce que je vais dériver. Donc on regarde tout de suite la partie importante. Alors ça c'est, j'applique la définition de la dérivée covariante, n virgule k moins gamma a k rho n rho. La dérivée covariante. Alors, c'est pour ça que j'ai abaissé l'indice. L'expression de la normale. L'expression covariante de la normale est facile parce qu'il y a beaucoup de zéros. Donc, d'abord, NA est égal à 0. Il n'y a pas de composante spatiale. Donc, ce terme-là, il est absent. Et la somme ici, elle se réduit à rho égal à 0. Donc, en fait, vous voyez que c'est directement relié à un Christoffel d'espace-temps, celui avec la composante 0 au-dessus et AK. Alors maintenant, je vais exprimer le Christoffel d'espace-temps en termes de la métrique. Et donc, c'est moins G00 gamma. Pour ça, je mets les indices en dessous parce que là, il y a une formule qui me donne les gammas en termes, avec tous les indices en dessous en fonction des dérivés de la métrique. Donc, j'ai écrit tout en termes moins G0i gamma i à k. Alors, je vais mettre un 4 parce que là, il faut faire attention, a priori, puisqu'il n'y a que des indices spatiaux, ça pourrait prêter à confusion, mais on va voir. Alors maintenant, je vais utiliser G00, je vous l'ai donné quelque part, en fonction du laps et du shift. Je vais tout écrire en termes du laps, du shift et de la métrique spatiale. Hein. Et donc G00, c'est moins n carré. Oui, mais j'ai oublié n0. N0 qui est égal à moins 1 sur n. Donc j'ai oublié à 1 sur n gamma 0 ak. D'accord, est-ce que c'est... Je pense que c'est juste. Hein. Je ne sais plus où c'est, mais ça c'est là quelque part. Et donc ici, j'avais oublié le 1 sur n, et il faut changer de signe. Mais G00, c'est moins n carré, donc ça me donne moins n gamma 0 ak. Et G0i, je l'ai écrit quelque part, c'est ni sur n carré. Oui. Donc ça, ça me donne plus. Ni. Ici. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit N0, c'est N. Vous avez raison, donc c'est moins N. Hein. C'est difficile de voir les tableaux. C'est moins N. Merci. Donc, mais heureusement, donc, ça fait plus N ici, ça va. En fait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc, je commençais à... Oui. Et donc ici, j'ai 0, 0, c'est 1 sur N carré, donc j'ai 1, moins 1 sur N. Maintenant, ça ressemble à ce qu'il y a dans mes notes, donc c'est bon. Et ici, j'ai ni sur n carré qui me donne un ni sur n, donc c'est comme dans mes notes. C'est très bien, merci beaucoup. Et j'écris toujours le 4, puisqu'on n'est pas sûr, il faut faire attention. Oui ?
Désolé, donc là-bas, le
g00,
c'est moins 1 sur n carré.
G00 au-dessus, c'est moins 1 sur n carré. 1, c'est g0, moins 1, pardon. Donc là, c'est à mon avis... Donc là, évidemment, je ne les ai pas dérivés, donc j'ai recopié, mais probablement que j'ai mal recopié. On va vérifier. Après, ça maintient l'attention du public. Merci, oui, effectivement. Bien. Donc, on va juste... Donc ça, c'est... Ça correspond à ce que j'ai écrit. Oups. Donc maintenant, je vais... déballer les gammas de Christoffel, et on va voir que ça prend une tête sympathique. Donc c'est moins 1 sur n. Alors ceci c'est 1 demi, par définition des gammas de Christoffel, g0a, virgule k, plus g0k, virgule a, moins gak, virgule 0, où la virgule désigne la dérivée ordinaire. Et puis j'ai le deuxième terme, ni sur n. Alors, je ne vais pas le déballer. Pourquoi je ne vais pas le déballer? Parce que gamma 4, c'est en fait la même chose que gamma 3. Gamma 4 est formé uniquement à l'aide des dérivées spatiales de la métrique spatiale. Comme la métrique spatiale est la même et que les dérivées spatiales sont les mêmes, ceci c'est réellement gamma 3. Donc je vais réécrire plus ni et... Je vais pas être fidèle. J'avais dit, j'écris pas 3 quand c'est 3. Enfin, ici, pour insister sur le fait que c'est la même chose, je mets gamma 3. Alors, vous voyez apparaître ici le shift avec des dérivées ordinaires. Et vous voyez apparaître aussi les dérivées temporelles de la métrique. Donc, je vais écrire ceci comme moins 1 sur 2n. Ça, ça se factorise. Alors, j'ai moins gak, virgule 0. Et puis, vous voyez apparaître dérivée ordinaire par rapport à k de na, plus dérivée ordinaire par rapport à a de nk. Et puis, vous avez des termes ici qui vous covariantisent ces dérivées ordinaires. Après tout, c'est un tenseur. Donc, en fait, ce qu'on va obtenir, puisque j'ai mis le moins là, plus na bar k, où ça c'est la dérivée covariante d'espace, plus na ben k bar a. Et donc, en comparant cette expression avec la définition de la courbure extrinsèque, j'en déduis que k avec l'indice abc, donc on n'a que n a point virgule k, si je l'écris, donc quand je fais alpha égale à a, c'est gma ici, et donc ça abaisse l'indice d'espace, donc c'est moins k, m devient a, k. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que k a k, donc qui est moins ces dérivées covariantes, cette dérivée covariante c'est moins ça, donc c'est juste ce qui est écrit là. Donc c'est 1 demi, 1 sur 2n, moins g a k, virgule 0, plus n a bar k, plus n k bar a. Alors ça, c'est une relation qu'on va utiliser, comme on va le voir maintenant, beaucoup dans le formalisme hamiltonien. Et donc, c'est important. Elle est une relation importante. Elle vous montre aussi, donc ça vous montre d'abord que la courbure extrinsèque, ça dépend de la manière dont la métrique varie avec le temps. Mais comme le temps est quelque chose qu'on peut bouger, juste la dérivée temporelle n'est pas quelque chose qui est réellement intrinsèque au plongement, parce que ça dépendrait de la manière dont on définit le temps ici. Et c'est pour ça qu'il y a ces termes correctifs. Donc ça coïncide avec une dérivée normale, le long de la normale, lorsque ça c'est égal à zéro. Mais si on ne dérive pas, la dérivée par rapport à x0, ce n'est pas dans la direction de la normale, il y a des termes en plus, et qui en fait donnent une plus grande invariance à l'expression qui est là. Donc ça, c'est la courbure extrinsèque. Mais moralement, la courbure extrinsèque, c'est, bon, à part ce facteur moins 1 sur 2n, c'est la dérivée temporelle de la métrique. Et donc, ça va être directement relié au moment conjugué. Quand on va calculer l'hamiltonien. Mais j'anticipe ici, la raison pour laquelle je parle de la courbure extrinsèque, c'est précisément parce qu'elle est directement reliée aux dérivées temporelles et donc va être directement reliée au moment conjugué aux variables gravitationnelles. Alors avant d'arriver à dériver l'hamiltonien, j'ai besoin encore de trois relations. Géométriques, donc on n'en a pas fini avec les préliminaires géométriques. Donc il y a des calculs que je fais explicitement pour vous donner un peu une idée de comment ça fonctionne, mais je ne peux pas les faire tous explicitement. Il y en a déjà que j'avais sauté, il y en a d'autres que je vais sauter maintenant. En fait, ce qui nous intéresse réellement, rappelez-vous, le Lagrangien d'Einstein, il dépend de la courbure d'espace-temps. Donc on voudrait écrire la courbure d'espace-temps en termes des objets tridimensionnels. Donc la géométrie intrinsèque et peut-être aussi la géométrie extrinsèque. Et pour faire cette décomposition, on va utiliser ce qu'on appelle les équations de Gauss-Kodály. Alors les équations de Gauss-Kodály, donc elles sont pas très difficiles à dériver. En fait, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Mais à nouveau, ça prend du temps et de l'espace sur les tableaux. Donc je vais juste vous les donner. D'abord je vais les écrire et puis je vais vous expliquer comment on les obtient. Donc en fait la question c'est comment peut-on relier la courbure d'espace-temps aux objets qu'on a introduits, c'est-à-dire la métrique d'espace, aux objets tridimensionnels qu'on a introduits, c'est-à-dire la métrique d'espace. Et le tenseur de courbure extrinsèque, qui est un tenseur tridimensionnel, mais qui a des informations sur le plongement. Donc il a aussi des informations sur les dérivées temporelles, comme on l'a vu. Donc on voudrait relier ceci à la courbure à trois dimensions, et pour qu'il n'y ait pas de confusion, je mets explicitement le 3 ici, même si à un moment donné je ne l'écrirai plus, et la courbure extrinsèque. Puisque je veux faire apparaître les dérivées temporelles. Alors, les équations de Gauss-Kodály, d'abord, elles sont plus simples si on écrit les choses dans la base normale. Donc, on va écrire les composantes du tenseur de courbure dans la base. C'est un tenseur, donc on peut faire ça dans n'importe quelle base, mais c'est plus simple de regarder les composantes du tenseur de courbure dans cette base-ci. Alors, les équations de Gauss-Kodály permettent de relier les composantes purement spatiales de la courbure d'espace-temps et les composantes de la courbure d'espace-temps avec un indice le long de la normale et puis trois indices d'espace en fonction de la courbure d'espace et de la courbure extrinsèque. Ça va être intéressant, ça, c'est intéressant et important quand on va décomposer le Lagrangien dans l'espace et le temps. Donc, quelles sont ces relations ? Bien, il y a un terme qui est d'abord la courbure ordinaire à trois dimensions. Donc je ne l'ai pas écrit ici, mais peut-être je l'ai écrit la courbure à trois dimensions. Je ne sais pas pourquoi dire ordinaire. La courbure de la géométrie qui caractérise la géométrie intrinsèque moins une expression quadratique en la courbure extrinsèque qui a les symétries du tenseur de Riemann. Donc ça montre en fait que la courbure extrinsèque et la courbure intrinsèque ne peuvent pas être quelconques. Par exemple, si je travaille dans un espace plat où R est égal à 0, je peux avoir de la courbure intrinsèque, mais ça doit être compensé par une courbure extrinsèque. Donc par exemple, si je plonge là, ça explique que la sphère plongée dans l'espace euclidien a de la courbure intrinsèque, mais là aussi de la courbure extrinsèque, et ça se compense pour former un tenseur de courbure nul, le tenseur de courbure de l'espace ambiant. Alors, cette composante-ci, on peut aussi l'exprimer complètement en termes de K, donc c'est les dérivées covariantes de K, donc ça c'est une barre, hein. J'espère que c'est clair. Donc c'est une dérivée covariante, ça c'est une dérivée covariante de K dans la direction C ou dans la direction D. Par contre, les composantes, donc ça c'est les relations de Gauss-Kodály. La manière la plus directe, il y a des manières, disons, plus subtiles, mais qui. On n'est pas obligé d'être subtil pour dériver les équations de Gauss-Kodály. Vous utilisez la définition du tenseur de Riemann, ça fait intervenir les gamma, et puis vous utilisez le lien entre K et certaines composantes gamma 0, et puis vous obtiendrez aussi les gamma 4 reliés au gamma 3, et ça fait apparaître les K, et juste en déballant, vous obtenez ces relations. Donc ce n'est pas très compliqué. Et de nouveau, c'est un calcul que je passe, parce que je pense que ça prendrait plus que la fin de l'heure, de la leçon. Bien, donc je ne vais pas le faire. Mais c'est dans tous les livres de géométrie. Alors, si je regarde la courbure, le Lagrangien d'Einstein, parce que mon but est d'écrire le Lagrangien d'Einstein en termes de ces variables géométriques adaptées au feuilletage et à la décomposition de l'espace-temps, l'espace et le temps. Vous voyez qu'il me manque des composantes, c'est-à-dire que la courbure R4, c'est R, je peux l'écrire comme ça, alpha, bêta, alpha, bêta, mais donc je vais avoir R4 A, B, A, B, et donc si je travaille dans cette base-là, élever les indices ou les ABC, c'est très facile, c'est avec la métrique d'espace-temps, donc ça, je peux utiliser cette relation-ci pour l'exprimer en termes d'objets tridimensionnels. Mais j'ai aussi la composante où alpha vaut perpendiculaire, un indice le long de la normale. Bon, du coup, puisque c'est antisymétrique, j'ai un B ici. Et puis j'ai l'autre où c'est B qui est perpendiculaire, mais c'est évidemment, vu les relations de symétrie du tenseur de Riemann, deux fois. Et donc, avec juste la relation de Gauss-Kodály, je peux écrire ce premier terme en termes des quantités tridimensionnelles, mais ce deuxième terme, il n'est pas dans la liste. Donc je dois vous dire quelque chose, si je veux avancer, concernant ce deuxième terme. En fait, ce deuxième terme, on peut l'écrire, je vais écrire ça comme ça, mais pour une raison, juste pour être sûr que je copie les choses proprement. Oui, donc ceci, peut-être je vais l'écrire. Oui, peut-être je change quand je fais déjà le calcul ici. Ça, c'est R4 AB AB. Donc je vais permuter les indices. Ça ne change pas parce que j'ai un signe moins ici, j'ai un signe moins. Mais je vais abaisser l'indice perpendiculaire. Et là, comme la métrique dans la base ici, c'est moins 1, ça me donne un signe. Donc je vais réécrire ça comme moins 2 R 4 B ou A, enfin perpendiculaire, B perpendiculaire. D'accord ? Alors c'est un indice de sommation, là je l'ai remplacé A par A. Je prétends, alors, ça c'est un calcul à faire, qui est un peu plus long, mais qui se trouve dans les références que je vous ai données, et qui exprime ce tenseur ici, allait de la manière suivante. Donc je vais l'écrire et puis je commente. C'est moins KAB KAB plus K carré Donc K, c'est la trace de la courbure extrinsèque. Donc par définition, c'est KAB, GAB, où j'élève les indices à l'aide de la métrique inverse d'espace. Hein? Donc c'est une relation, une identité qu'on peut démontrer et qui dit la chose suivante, plus une divergence covariante pour un certain W, mais dont l'expression ne va pas m'intéresser parce que je suis intéressé par, parce que je m'intéresse à l'action. Donc, théorème ou exercice, ceci est égal à ça. Alors, à nouveau, c'est pas très compliqué à démontrer, mais ça me prendrait beaucoup trop de temps à faire. Si ça se trouve dans les références que je vous ai données, si ça vous pose des problèmes, j'ai refait le calcul, je peux même vous donner des notes là-dessus si vous avez des difficultés, mentionnez-le moi la semaine prochaine. Hein, donc voilà, donc ça c'est une relation qui est importante parce que ça va me permettre maintenant de passer au formalisme hamiltonien et terminons avec, disons, les préliminaires géométriques. Donc en fait, ce qui m'intéresse réellement, c'est la décomposition de R, alors j'ai déjà écrit R4, fois racine de moins G en fait, puisque c'est ça qui apparaît dans l'action de Einstein-Hilbert. Donc on va réécrire ceci en termes des objets tridimensionnels. Donc là, je vais utiliser le fait que R, c'est relié à la courbure spatiale, donc je vais avoir R4 ABAB, donc ça va être R3 ABAB, mais ça c'est la courbure spatiale. Donc le premier terme qui va venir de là, c'est la courbure spatiale d'espace, pardon, qui vient de là, donc ce qui vient de là, mais donc j'utilise cette relation, ça vient de là, ça va être la courbure d'espace, hein, je contracte les indices comme ici, donc ça me donne la courbure d'espace, donc je n'écris pas le 3, mais quand c'est pas écrit, ça veut dire que c'est 3, par défaut c'est 3, plus, et donc je dois contracter ici, cet indice-ci avec celui-là, et celui-là avec là, donc A avec C, et B avec D, donc j'ai plus K carré, moins KAB, KAB, fois racine de moins G, qui est, d'après ce qu'on a vu, N racine de G, spatiale. Donc ça, c'est ce qui vient de ceci. Et maintenant, on va écrire ce qui vient de là. Ben, c'est ce qui vient de là, c'est moins 2 K 1. À nouveau, pardon, c'est moins 2 ici, donc ça fait moins 2 par moins, donc ça va faire plus 2 KAB, KAB N racine de G, moins 2 K carré N racine de G, plus, alors je vais l'écrire comme ça, W alpha racine de moins G, hein, la métrique a une dérivée covariante nulle, donc je peux la mettre à l'intérieur de la dérivée covariante, et donc il y a moins 2 sans doute. Mais la dérivée covariante d'une densité vectorielle, c'est la même chose que la dérivée ordinaire, donc virgule alpha. Et donc, vous voyez que le Lagrangien d'Einstein se ramène à une expression finalement très simple, enfin, où le terme dans l'action de Einstein-Hilbert se ramène à une expression simple, qui est l'expression suivante. Alors, je fais d'abord un peu de place. Donc ce que j'apprends, et puis tout le reste on pourra l'effacer, parce que tout le but était de dériver cette relation-ci, c'est que R racine de moins G, c'est égal donc à la courbure, donc j'ai d'abord un N racine de G qui multiplie tout. Et puis qu'est-ce que j'ai? J'ai la courbure spatiale, et puis j'ai une expression quadratique en la courbure extrinsèque. Alors vous voyez que j'ai plus K carré ici, moins 2 K carré là, moins KAB, KAB, plus 2 KAB, KAB. Donc en fait, j'obtiens plus KAB moins K carré, plus quelque chose qui est, je vais peut-être même l'écrire comme ça, d alpha de moins 2 w alpha racine de moins g. D'accord, donc peut-être je vais répéter, j'ai peut-être pas dit suffisamment clairement ici. Donc ce que cette relation exprime, c'est que à une divergence covariante près, on peut écrire R comme ceci. Cette divergence a une certaine expression, hein, c'est pas n'importe quoi. Mais ce que je dis, c'est que cette expression, je ne vais pas m'embarrasser de l'écrire, parce qu'on n'en aura pas besoin. On n'en aura pas besoin pour une raison que je vais expliquer tout de suite. Donc en fait, les deux relations essentielles pour la suite, c'est celle-ci. C'est le lien entre la courbure extrinsèque et les dérivées temporelles. Et c'est tout. Donc j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour dériver explicitement le hamiltonien de la gravitation. Bon, je vais essayer de le faire en 10 minutes. Donc, je vous rappelle, donc, formulation hamiltonienne, donc ça doit être le point suivant, 3. Donc, je rappelle que l'action d'Einstein, donc les variables, c'est les g alpha beta, et elle est donnée par des facteurs qu'on va faire égaux à 1, mais si je les mets C3 sur 16 pi grand G, où G est la constante de Newton, intégrale de R4 racine de moins G4. Oui, donc là, c'était clairement G4, hein, sinon il y a des i qui s'introduiraient. Donc, enfin, autant le mettre. J'espère que je l'avais mis. Oui. D4x. Donc, dx0. Donc, je mets dx0, d3x. Alors, je vais faire c égale à 1. Et 16 pi g est égal à 1. Et donc, dans ce cas-là, le facteur ici, c'est 1. Bien. Alors, la première chose que je vais faire, c'est au lieu de travailler avec les variables G alpha beta, je vais travailler avec la métrique spatiale AB, N et NK. On a vu que c'était un changement de variable inversible. Hein, on peut soit travailler avec les G lambda mu, soit travailler avec G, IJ, N et NI. Il est plus commode de faire ce changement de variable. Donc on garde les GAB, on n'y touche pas, mais on utilise N et NK comme autre variable lagrangienne. Et je vais maintenant écrire ce que j'ai appris sur ce lagrangien, sur, disons, la courbure, dt, d3x, n racine de g, r plus KAB, KAB moins k carré. Plus quelque chose. Mais en fait, ceci étant une dérivée totale, ne contribue pas aux équations du mouvement. Et en plus, il faut se rappeler, donc plus une dérivée totale que je laisse tomber, parce que cette action, il y avait peut-être encore une difficulté que j'aurais dû mentionner à propos de l'action, c'est qu'elle contient les dérivées secondes de la métrique. La courbure, elle est formée à l'aide des dérivées premières et des dérivées secondes de la métrique. Donc, a priori, elle est dérivée seconde de la métrique. Comment définit-on le formalisme hamiltonien quand il y a des dérivées secondes par rapport au temps? D'autre part, on sait que les équations d'Einstein sont des équations qui ne contiennent que les dérivées secondes. Il n'y a pas de dérivée quatrième. Donc, en fait, ces dérivées secondes, elles apparaissent à travers une dérivée totale. C'est exactement là qu'elles sont. Parce que là, il n'y a pas de dérivée seconde par rapport à au temps. Donc en fait, quand j'ai réécrit ça, j'ai automatiquement chassé les dérivées secondes par rapport au temps de la métrique dans le terme de surface. On sait que c'est possible. Donc elles sont là quelque part. Mais comme ce terme-là ne joue pas, je le laisse tomber. Et donc j'ai maintenant un lagrangien qui est bien uniquement en fonction des dérivées premières par rapport au temps de la métrique. Il y a toujours des dérivées secondes par rapport à l'espace dans R, mais ça c'est pas grave pour le passage à l'hamiltonien. Les dérivées par rapport au temps, c'est grave ou c'est important. Il n'y a que les dérivées premières. Alors, je reviendrai sur les termes de surface plus tard, mais pour le moment, fermons nos yeux sur les termes de surface. Donc, je laisse tomber le terme de surface. On verra qu'après, il faudra en ajouter dans, lorsqu'il y a des bords. Mais soit on se dit qu'il n'y a pas de bord, soit on se dit qu'on les traitera plus tard, ce qui est le cas. Bien, donc je vais prendre cette action-ci. Et voyez qu'elle contient un terme qui ressemble à un terme potentiel. Si j'appelle GIJ les Q, c'est pas le mien, je pense. Si j'appelle GIJ les Q, vous voyez qu'ici il y a une sorte de terme potentiel qui dépend que des Q. Et là vous avez un terme qui dépend des Q points, des dérivées temporelles de la métrique. Parce que la courbure extrinsèque dépend des dérivées temporelles de la métrique. Donc ça c'est une sorte de terme cinétique qui est quadratique en les vitesses. Et ça, c'est un terme potentiel. Alors, ce terme cinétique, je vais... c'est une forme quadratique. Donc, les coefficients de cette forme quadratique, je vais les baptiser grand G, A, B, C, D. C'est ce qu'on appelle la métrique, la supermétrique de 2,8. Donc, j'introduis le tenseur G, A, B, C, D. Ah oui, c'est avec le N, avec le racine de G dedans. Donc j'introduis le tenseur GABCD étant égal à racine de G. Donc j'absorbe le racine de G dans la définition de G. Donc je dois reproduire ceci, c'est quadratique. Donc j'ai 1 demi GAC GBD plus GAD GBC moins... Alors le K carré, ben ce sera GAB, GCD. Vous voyez qu'effectivement, cette forme quadratique-ci, au facteur de racine de G près, mais qui est là, c'est bien ce que j'ai écrit là. D'accord ? Puisque les deux premiers termes ici, j'ai symétrisé, me donneront ça, à la manière dont les choses sont contractées, A avec C, donc A avec C, et B avec D, B avec D, donc ça me donne cela. Et puis l'autre, vous voyez que AB est contracté avec AB ici, donc ça me donne un K, et l'autre me donne un autre K, donc j'ai bien K carré, avec un moins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la supermétrique de 2,8, et donc c'est elle qui contrôle la partie cinétique, mais à côté de ça, vous avez le R. Alors, j'ai dit il y a les dérivées temporelles de GAB, c'est vrai, mais... Autre chose que je devrais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de dérivée temporelle de n, et il n'y a pas de dérivée temporelle de nk. Ici, il n'y en a pas, là, nulle part. Hein. Donc, si je passe au formalisme hamiltonien en suivant les règles, je vais dire, je vais introduire un moment conjugué pour les GAB, un moment conjugué pour n, un moment conjugué pour nk, mais le moment conjugué pour n, qui est la dérivée du lagrangien par rapport à n point, c'est zéro, clairement pas inversible. Le moment conjugué à nk, qui est donc la dérivée du lagrangien par rapport à n point k, il n'y a pas de n point k, c'est zéro. Donc c'est clairement une transformation de Legendre non inversible. Alors je ne vais pas faire la théorie générale comme je l'ai dit ici, je vais m'en sortir en disant, bon, n et nk sont... On ne peut pas faire une transformation de Legendre pour n et nk, mais en tout cas, les g points AB, ils apparaissent bien, et là, je peux inverser. Donc, je vais faire la transformation de Legendre uniquement sur les GAB points. Et je vais garder n et nk comme des variables spectatrices. Et on va voir comment ils apparaissent en fin de course. Mais faisons cela. Donc, je vais dire, bon, puisque je vais faire ce que je sais faire. Donc, je vais faire la transformation de Legendre. Après tout, on n'est pas obligé de la faire sur toutes les variables. Donc je vais faire la transformation de Legendre sur les variables qui ont des moments conjugués inversibles, c'est-à-dire les GAB, les coefficients de la métrique d'espace. Alors, comment ça fonctionne? Donc je vais définir PAB comme étant DL sur D, où L est donc la densité, donc ce qui apparaît ici, hein, sur DG point AB, comme on a fait pour le champ scalaire. Et donc, les points n'apparaissent que dans les KAB. Donc vous voyez apparaître la partie cinétique. Elle apparaît deux fois. Et puis je dois dériver les KAB par rapport aux vitesses. Ça va me donner un facteur moins 1 sur 2n. Donc je vais avoir un moins 1 sur 2n KCD. Voyons si ça correspond à mes notes. Ça a l'air. Donc ceci, c'est moins GABCD KCD. Donc, vous voyez que les moments conjugués, c'est effectivement à une combinaison linéaire des K avec des coefficients qui dépendent de la métrique, mais disons, pour les vitesses, elles sont là. D'accord ? Le racine de G, il est absorbé dans le grand G. Hein. Et ça, je dis, je peux l'inverser. Pourquoi je peux l'inverser ? Parce que cette supermétrique, donc la métrique dans l'espace des métriques, est inversible. Alors, comment on voit ça ? Ben, en construisant l'inverse. Donc je prétends que G A, B, C, D, donné par l'expression suivante, 1 sur 2 racine de G, G A, C, G, B, D, plus G, A, D, G, B, C, moins G, A, B, G, C, D, alors là, je vous laisse peut-être faire ça comme exercice. Possède la propriété que GABCD, GCD, MN est égal à ce que j'appelle delta AB MN, qui par définition, donc c'est le delta dans l'espace des tenseurs symétriques, donc c'est delta AM delta BN plus delta AN delta BM. Donc je prétends que cet objet-ci possède cette propriété-là. Démonstration, on multiplie ça par ça et on utilise les propriétés que la métrique inverse est l'inverse de la métrique. D'accord ? Donc je ne vais pas le faire parce qu'à nouveau, ça prend trop de temps, mais donc l'important, c'est que ceci me permet, et je dois terminer cette première heure, cette première leçon, pardon, ceci me permet, en utilisant la métrique inverse, d'écrire K, C, D, comme étant moins G, C, D, AB, disons, pi AB. Donc je peux écrire les vitesses, parce que ceci, ça contient les vitesses, en fonction des moments. Donc effectivement, cette partie-là est inversible. Donc là, j'ai défini les choses en suivant le gendre. Oups, j'obtiens une expression des moments conjugués en fonction des vitesses. Les K, c'est les vitesses, l'expression là-bas. Eh bien, je peux l'inverser pour exprimer les K, c'est-à-dire les vitesses décorées, mais c'est toujours les vitesses, en fonction des pi. Et en utilisant ça, je peux maintenant calculer le Hamiltonien. Et bon, je vais déborder un tout petit peu, parce que bon, c'est pas un bon moment pour s'arrêter. Donc je déborde un tout petit peu et on reprendra autant de minutes plus tard. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est calculer H. Alors H, c'est l'intégrale d3x de PQ point, IJ, G point, IJ moins L. Donc on va utiliser... Alors d'abord, on va compléter... Je vais faire les choses pas trop vite. Je dois l'écrire en termes de G et pi. Je dois me débarrasser des vitesses. Pour me débarrasser des vitesses, je vais faire apparaître K. Pour faire apparaître K, je vais aller utiliser la définition qui est là-bas. Et donc ceci, c'est moins 2n taille j. Donc j'utilise les g en fonction des k et je mets ça de l'autre côté, enfin, ou d'autre manière, je mets k de ce côté-ci et g de ce côté-là. Donc j'ai 2nk moins 2nk plus dérivée covariante ni bar j plus nj bar i. Donc ça, c'est ce premier terme, moins L. Moins L, c'est-à-dire moins N. Alors, j'inverse la partie quadratique. Donc là, c'est facile. Je remplace K par son expression ici. Et je remplace l'autre K par son expression là. Et donc, je vais avoir la supermétrique inverse fois les pi. Donc, moins G, IJ, MN... pi ij pi mn, qui est le L. Bon, mais il y a aussi le terme en courbure, qui lui est moins n racine de g fois la courbure. Donc j'intègre tout ça sur d3x. Vaut mieux... oui. Surveillez-moi, hein, parce qu'au tableau, toujours très dangereux. Alors, voyez que on a ici quelque chose de sympathique. Kij, ben, je vais utiliser la relation là. Donc, voyez que j'ai un terme qui va être linéaire en n et qui est ben, Kij, c'est moins Gij mn pi mn. Donc, au facteur près, il y a moins 2. J'aurai un 2 ici. Et j'ai un moins 1 là, donc 2 moins 1, ça fait 1. Donc je vais obtenir G, IJ, MN, pi IJ, pi MN. Puis j'ai aussi quelque chose de linéaire en N qui est là, qui est moins racine de G fois R. Et puis j'ai ce terme-ci. Ce terme-ci, je vais faire une intégration par partie. Et je vais utiliser le fait que la divergence d'une densité vectorielle, c'est une dérivée totale, donc à des termes de bord près que pour le moment je ne traite pas, on peut laisser tomber. Donc je vais obtenir moins... Alors vous voyez aussi que c'est deux fois la même chose, parce que pi j est symétrique. Donc qu'est-ce que je vais obtenir, une fois que je fais ça, moins, je vais l'écrire comme ça, plus ni, moins 2 pi i j bar j. Et alors j'ai utilisé aussi le fait que la dérivée covariante de la métrique d'espace était nulle, donc je peux élever cet indice-là et abaisser celui-ci. D'accord ? Donc j'ai intégré par partie, ce qui me donne une dérivée covariante là, il y a un signe moins, il y a le 2 parce qu'ils sont là deux fois. Donc vous voyez que le hamiltonien est linéaire en n et en ni. Hein. N et ni, n'a pas, là c'est uniquement les p et les q, les gij et les pij. Donc... N et NI apparaissent linéairement. Et donc, si je réécris l'action maintenant sous forme hamiltonienne, qui est équivalente à l'action de départ, on n'a plus besoin de tout ça. Si je réécris l'action sous forme hamiltonienne, donc S va dépendre, hamiltonienne, je mets le H maintenant, GIJ, PIJ, N, NK, eh bien, c'est l'intégrale dt, l'intégrale d3x de pi pq point, pi j, g point, ij, moins le hamiltonien, c'est-à-dire moins n h, moins nk hk, où h, c'est g, ij, mn, pi ij, PMN moins R racine de G et où HK c'est moins 2 pi K M disons M. Et donc voilà l'action sous forme hamiltonienne. Et ce qu'on sait, c'est le formalisme newtonien, c'est que les équations du mouvement obtenues en extrémisant par rapport à pi et à G, mais aussi même si c'était des variables spectatrices, c'est quand même des variables dynamiques, par rapport à n et à nk, sont équivalentes aux équations obtenu en variant cette action-ci, c'est-à-dire les équations d'Einstein. Mais ici, on a les équations, bon, je vais les discuter maintenant, je vais arrêter. On va prendre comme point de départ pour la leçon prochaine ceci, et on en dérivera l'équation de Wheeler-DeWitt. Mais d'abord, je voudrais encore faire quelques commentaires classiques concernant cette action. Donc on va regarder d'un peu plus près à quoi ressemblent les équations du mouvement, quel rôle jouent n et nk, et comment pij et jij apparaissent dans les équations. D'accord ? Donc pour le moment, c'est juste des transformations en un sens. Donc maintenant, c'est intéressant géométriquement parce qu'on a développé certains concepts, mais disons pour la physique, c'est réellement seulement maintenant que le point de départ arrive. On a l'hamiltonien, on a les variables dynamiques, et donc on va pouvoir faire des choses. Enfin, il fallait bien la dériver, cette action, et c'était l'objet de cette première leçon. Voilà. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc sinon, je propose qu'on fasse une pause jusqu'à 16h05. Et à 16h05, je reprendrai ça donc, à partir de là. Donc je ne vais pas effacer ceci. Vous voyez que j'ai défini H et HK, hein, que c'est bien les quantités qui apparaissent là. Donc je vais garder ceci qui sera mon point de départ pour la deuxième leçon. Et on reprend à l'heure 5. Voilà, merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.